Lizzie présente Napoléon III et Victor Hugo. Le duel de Frédéric Mitterrand de l'Institut. Lu par François Montagu. Un dictateur, en effet, n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Imaginez qu'un dictateur n'a d'appétit que pour le sang et n'aime que la terreur serait une sottise. Mais il sait que s'il abandonne ou néglige les moyens de son pouvoir, il tombe dans la trappe du but. Il lui faut sa police, sa justice, son officine de propagande, ses armes de séduction et de répression. Privé d'elle, un jour ou l'autre, il verra le peuple sortir de sa torpeur, hurler à la tyrannie, brûler les palais officiels. Même s'il pense qu'il n'a pas opprimé les citoyens, qu'il n'a pas bafoué les lois, qu'il n'a pas moqué les mœurs, qu'il a favorisé le progrès, qu'il a aidé les arts, qu'il a respecté les coutumes, le cri qui montera vers lui sera le cri de la vengeance. Il s'en étonnera. Peut-être en souffrira-t-il comme d'une injustice. Peut-être en sera-ce une. Peut-être préférera-t-il la mort à ce qu'il appelle l'ingratitude. Mais il ne comprendra pas ce qu'il n'est pas apte à comprendre. Que le pouvoir d'un seul, même consacré pour un temps par le consentement général, insulte le peuple des citoyens. Que l'abus ne réside pas dans l'usage qu'il fait de son pouvoir, mais dans la nature même de ce pouvoir. François Mitterrand, Le coup d'État permanent, 1964. La nouvelle arrive que Louis Bonaparte est mort. C'eût été un bonheur il y a 3 ans, ce n'est même plus un malheur aujourd'hui. Victor Hugo, Chose vue, 10 janvier 1873. Malgré les vaines et stupides clameurs de la rue et toutes les lâches défaillances de ces derniers temps, l'empereur peut attendre avec confiance le jugement de la postérité. Son règne restera l'un des plus glorieux de notre histoire. Louis Pasteur. Louis-Napoléon le Grand, de Philippe Séguin, 1990. En souvenir de Pierre Le Tan, qui aimait que je lui raconte cette histoire. Prologue. Victor Hugo, le héros du romantisme, contre Napoléon III, le héros romanesque. Leur duel domine l'histoire du XIXe siècle, mais il se prolonge jusqu'à aujourd'hui, car c'est celui de la pensée et du pouvoir. Victor Hugo imprègne notre littérature par son génie. Napoléon III trouble notre histoire par une aventure politique extraordinaire. Victor Hugo est le prophète de notre République. Napoléon III est le voleur qui a tenté de la détrousser. La postérité a divinisé Victor Hugo. Elle a jeté Napoléon III aux enfers. Et pourtant, leur combat ne se résume pas à une lutte sans merci entre la liberté et l'oppression, la démocratie et la dictature. Il épouse les fractures d'un siècle hanté par un fantôme, celui de l'empereur Napoléon. Tourmenté par une mémoire, celle de la Révolution. Habité par une idée, celle de la République inéluctable. L'un et l'autre en eurent si bien conscience qu'ils auraient pu s'entendre. Ils y pensèrent de toute la force de leur intelligence et de leur fascination réciproque, avant de devenir des ennemis irréconciliables. Victor Hugo n'était pas Malraux, et Napoléon III n'était pas de Gaulle. Ils ont à peu près le même âge. Victor naît en 1802, d'une mère royaliste qui n'aime pas les prêtres et d'un père républicain que le Premier Empire fera général et comte. Une enfance vagabonde et tiraillée entre des parents désaccordés qui se détestent. Louis-Napoléon naît en 1808 d'une mère, la reine Hortense, fille de l'impératrice Joséphine et adoptée par l'empereur. Et d'un père, le roi Louis de Hollande, frère de l'empereur, qui rechigne à obéir à celui qui l'a couronné. Une autre enfance ballottée par l'exil, à la chute de l'Empire, et déchirée par la mésentente de ses parents mariés contre leur gré par le chef de la famille. Tandis qu'ils grandissent et avancent en âge l'un et l'autre, l'Empire de Napoléon Ier s'effondre après le formidable soubresaut des Cent-Jours et la défaite de Waterloo. Les Bourbons, sortis des poubelles du passé, reviennent, incarnés par les deux frères de Louis XVI. Le gros Louis XVIII, trop fin pour ne pas comprendre qu'il faut naviguer, en tenant compte de l'interminable bourrasque de la Révolution et de l'Empire. Le charmant Charles X, trop écervelé pour admettre qu'on ne peut pas revenir en arrière, et que le passé est bel et bien mort. Les Trois Glorieuses, journée d'insurrection de juillet 1830, amènent leur cousin Louis-Philippe d'Orléans sur le trône, à la suite d'un tour de passe-passe où la bourgeoisie, manipulant le sonore héros national Lafayette, impose une autre monarchie conforme à ses intérêts, plutôt qu'une république pour laquelle le peuple de Paris en armes a réveillé le souvenir épouvantable de la terreur. Victoire en trompe-l'œil pour les royalistes, qui vont se diviser pour toujours entre les légitimistes fidèles aux Bourbons détrônés et les orléanistes de la branche dynastique nouvelle. Cette rupture fera le lit de la République, proclamée en février 1848 par le poète Lamartine, à la chute de Louis-Philippe, qui n'a pas senti, malgré son intelligence et sa prudence, l'érosion de sa popularité et l'évolution de la société. Une république de monarchistes qui ne s'entendent plus et de républicains qui haïssent la vile multitude, selon l'expression d'Adolphe Thiers, ancien ministre du dernier roi déchu et habile stratège du jeu politique, à la recherche de la formule idéale d'une démocratie conservatrice couronnée par un roi sans pouvoir. Mais la France n'est pas l'Angleterre. Durant cette période, Victor Hugo est devenu en quelques années le grand homme des lettres françaises. Le vainqueur de la bataille d'Hernani au théâtre, qui a balayé toutes les anciennes traditions classiques. Le chantre de Notre-Dame de Paris. Le polémiste redouté qui soutient le soulèvement de la Grèce contre les Turcs et qui condamne déjà la peine de mort. Pensionné par Louis XVIII, chevalier de la Légion d'honneur à 23 ans sous Charles X, académicien et pair de France sous Louis-Philippe, ami de l'héritier de la dynastie qui meurt prématurément et conseiller intime du roi vieillissant qui ne devine pas qu'il n'en a plus pour longtemps. Cette ascension vertigineuse du vicomte Hugo lui vaut une avalanche de jalousie et de féroces inimitiés. Quant à Louis-Napoléon, il s'est autoproclamé l'héritier de son oncle le grand empereur, depuis son exil en Suisse qu'il partageait avec la reine Hortense, malgré la détestation du clan Bonaparte pour la famille de sa mère, les Beauharnais. Faisant le coup de feu contre les Autrichiens en Italie, tentant deux coups d'État à Strasbourg et à Boulogne contre Louis-Philippe, qui échoue lamentablement, condamné à la prison à vie, évadé dans des conditions rocambolesques, viveur prodigue en Angleterre, soutenu par une courtisane de haut vol et une bande de vauriens sans scrupules, il traîne une détestable réputation de tête brûlée et de songe creux. Mais il a beaucoup lu, beaucoup voyagé, s'est bricolé une culture pétrie de rêves de revanche et d'idées généreuses et n'a jamais cessé de croire en son étoile. Il est à l'affût du trouble des esprits, épuisé par plus de 40 années d'instabilité et de la légende de Napoléon Ier qui enflamme encore la mémoire populaire. Or, la Deuxième République de 1848 est arrivée par surprise. Elle est fragile, incertaine, et mitraille le prolétariat qui s'en détache. Elle est surtout le résultat d'une émeute parisienne, comme tous les autres brusques changements de régime. Le reste de la France est à majorité paysanne, et coupé de l'effervescence intellectuelle et politique de la capitale. Certes, on y a largement profité de la Déclaration des droits de l'homme, et l'on s'y ennuyait sous Louis-Philippe, mais on y aspire désormais à l'ordre, au calme, à un progrès mesuré promettant la prospérité.